Bon, mais il ne reste plus qu'à prononcer le nom du groupe et je crois que le secret sera dévoilé sur les ondes de la radio, puisque oui, nous allons bien parler donc des Burning Heads. À l'instant, donc en musique avec le titre Get It.
Hey You.
Hey You, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'avais Get It en tête.
Oh, il a dit deux, trois fois dans le morceau.
Oui.
Get hey. It.
C'est pour ça. Va te faire. Voilà. Ambiance donc décontractée ici même en direct du Confort Moderne pour cet après-midi sur les ondes de la radio Bob FM, où nous allons continuer à parler de fanzine et nous allons également eh bien, continuer à parler des Burning Heads après les avoir donc entendus. En compagnie donc d'un nouvel invité d'ailleurs que Guillaume va nous présenter.
Alors c'est Sam Guirand de son nom, Nasty Sammy de son pseudonyme, et je pense qu'à la Fanzinothèque de Poitiers ici même nous avons son œuvre intégrale en termes de fanzine, puisqu'il en a fait un bon paquet, en plus d'avoir fait de nombreux albums, des podcasts, un peu un homme de micro aussi, j'espère qu'il va le prouver.
Bah écoute, on va voir ça de suite. Salut Sam.
Salut.
Alors justement, cet amour pour le fanzine, visiblement donc un grand éditeur de fanzine depuis de très nombreuses années, comment on tombe dedans?
Un amour de la lecture déjà et de la presse des années 80 et 90. Donc voilà, on tombe dedans en fac quand on a envie d'écrire et de lire et de lire sur des choses qui sont difficilement trouvables à l'ère pré-internet. Donc voilà, les fanzines, c'était tout simplement, et les newsletters, l'unique moyen de s'informer.
Alors, tomber dedans, oui, lire, dévorer, oui, mais de là à passer le cap, à se dire tiens, moi aussi je vais écrire. Ça demande des capacités d'expression plus ou moins naturelles.
Alors, quand tu commences à fanzine, tu ne te poses pas toutes ces questions, tu as juste envie de partager en fait. Donc, savoir écrire bien ou pas, c'est juste du partage et la recherche d'informations, et après le reste, ça suit. Mais en tout cas, pour moi, tout, la musique, le cinéma, la bande dessinée et la littérature américaine, tout ça, c'était tout lié, quoi. Donc, je ne me posais pas plus de questions en fait, j'avais juste envie de partager ce que j'aimais. Et en publiant moi-même mes fanzines, puisque personne ne le fait, je le fais avec une photocopieuse chopée soit à la fac ou soit quand j'étais objet de conscience, j'ai fait mon armée.
Voilà, dans l'assaut pour laquelle tu
Ouais, voilà, c'est ça, on a tous fait ça, je pense. Et ensuite, après, à collaborer à des publications qui étaient mieux diffusées, des fanzines pro. Et après, accès à la presse nationale, tout simplement. Quoi.
Alors après, c'est souvent aussi une histoire de collectif. Toi, tu es lancé dans cette aventure seul ou tu étais accompagné?
Ouais, je préfère généralement faire les choses relativement seul. Après, je suis musicien, donc je suis tout le temps entouré de beaucoup trop de personnes à mon goût.
Ouais.
Dans un van et dans une salle de concert, un club. Donc c'est vrai que le fanzina, c'est pour moi le moyen de retourner dans ma coquille interne, quoi, et de faire les choses seul, comme je le veux et comme je l'entends.
C'est ça, voilà. Au moins, tu n'es pas déçu du résultat, puisque tu es seul à l'avoir.
Alors,
pensé,
tu peux être déçu du résultat, mais au moins, tu sais à qui t'en prendre.
D'accord. Alors, justement, Sam, aujourd'hui, tu ne travailles plus seul, puisque vous avez travaillé tous les deux avec Guillaume, autour donc d'un fanzine qui sera donc dédié aux Burning Heads. Alors, j'imagine qu'avant tout, c'est quoi? C'est l'amour de la musique qui vous a réuni? Oui.
Non, je vais upgrader la proposition.
Bien sûr.
Puisqu'on est parti. Alors, nous, notre histoire, c'est beaucoup de fanzines, mais on est parti, et je pense que Sam prolongera la chose. Je pense qu'il y a une influence américaine, disons le mot, là-dedans. Mais on est parti sur un format livre. On peut voir ça comme un super fanzine, hein. Moi, ça ne me dérange absolument pas.
Okay,
mais ça va sortir de chez un imprimeur, savoir la gueule d'un bouquin, relié comme un livre, voilà, avec plus de 500 pages. Donc, c'est un truc qui va faire boum quand on va le poser sur la table.
Mais il y aura les codes du fanzine, j'imagine.
Alors, et il y a aussi les codes du livre. Mais si tu veux, pour tout te dire, il y a un troisième larron, puisque la création graphique, on l'a confiée à Franck Frejnik, dit dans le milieu Franck Violence, puisqu'il faisait le fanzine Violence de Saint-Étienne. C'est aussi, un personnage de référence de ce milieu. Donc, tu as trois mecs qui viennent de la culture fanzine, mais qui ont quand même voulu assumer un livre à proprement parler. Je parlais d'une influence américaine parce que depuis quelques années, aux États-Unis, on voit que de nombreux groupes, de nombreuses scènes musicales sont documentées par l'objet livre.
Avec il y aura carrément un numéro
ISBN.
Ouais, il y aura le numéro ISBN.
On en a fait la demande est faite. On attend l'attribution.
Ah oui, là, ça.
Ouais, non, clairement, c'est un livre. Hein, c'est pas du tout un fanzine. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Donc moi, le support fanzine, j'ai un énorme respect pour ça. Mais ça n'a rien d'un fanzine, quoi. 530 pages, un bouquin qui fait 2 kilos, ça n'a absolument rien.
Vous auriez pu le découper en mode série. Chaque mois, on édite 30 pages et
c'est ça,
ça nous fait 20 mois, quoi. Puis voilà, sur 2 ans.
Perso, ça ne m'aurait pas déplu, mais on est parti sur un projet commun, alors on a essayé de respecter le cahier des charges. Voilà. Mais je pense que si on veut trouver une différence de vision entre Sam et moi, moi je vais pouvoir dire que c'est un gros fanzine au final. Mmh. Sam, lui, il va, comme il vient de le dire, pour lui, c'est un livre. Au final, on fait le même objet, c'est juste une histoire de vision.
Et je continue de publier ce que j'appelle moi des pro-zines. Je fais la distinction entre le petit zine agrafé, tout ça, que je respecte au plus haut point, mais le pro-zine, c'est aussi, c'est comme faire un magazine en fait. Là, je publie un fanzine en ce moment, un prozine qui s'appelle Maladjusted. C'est le taf que je fais, c'est je suis tout seul, mais je suis mon propre rédacteur en chef. Mais c'est un truc qui fait 100 pages, sortie papier glacé.
Voilà, il y a une vraie finition, un vrai travail d'impression et tout.
Donc je fais quand même la distinction entre tous ces mots. Et voilà.
Bah oui, c'est vrai, c'est bien de parler de ça, de débattre entre guillemets, parce qu'on ne sait pas souvent mettre une limite à ce mot fanzine. Qu'est-ce qu'un fanzine ? Donc moi j'avais la référence de ce fameux numéro ISBN, par exemple. Il y a le nombre de pages, voilà. Il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et
puis là, il y a la finition, tout simplement, c'est-à-dire l'objet, quoi. C'est un objet
et la distribution,
qui
sera disponible à peu près.
Ça va ressembler à un livre, quoi.
Donc on disait fou amoureux tous les deux donc de cet objet que le fanzine, fou amoureux tous les deux des Burning Gates. Pourquoi se dire tiens, bah justement, on va faire un livre sur ce modèle donc américain autour donc de ce groupe.
Alors, comme Guillaume le disait, c'est en France, on a encore du mal à trouver des bios, des mémoires sur les groupes. Il y a quelques éditeurs qui font du bon taf.
Oui, donc je pense à Camion Blanc.
Camion Blanc, voilà. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais voilà, la finition fait que, enfin, voilà, c'est souvent articulé autour des Camions Blancs et des trucs un peu plus pointus, notamment sur le hip-hop, le jazz, le psyché.
Et souvent des groupes étrangers d'ailleurs qui sont.
Voilà. Et on n'a pas cette culture de l'archivage, du patrimoine subculturel et de la mémoire. Quoi. C'est-à-dire aux États-Unis, en Angleterre, n'importe quel groupe qui a joué à peu près 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, qui a marqué un petit peu une région ou un style, a le droit à son histoire orale ou à sa documentation. Chez nous, pas du tout. Et là, on tient quand même un groupe qui existe depuis quasiment 35 ans, qui a été en format major, qui a été en format gros label européen, américain, qu'on tournait sur plusieurs continents. Un groupe très 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 important, c'est-à-dire un des rares groupes à l'échelle internationale à ne pas avoir splitté au bout de 35 ans et à jouer toujours le même style musical sans glisser dans toutes les modes et les hypes.
Oui.
Donc je vois pas pourquoi on ferait pas un livre monstrueux sur ce groupe-là, quoi, tout simplement.
Oui, qui réunit énormément de fans, mais vous auriez pu le faire, je ne sais pas, sur une culture plus 60, 70, 80, 90. Enfin voilà, là on est dans les années 90 avec les Burning Gates.
80, 90, ouais. 80,
80. Fin 80, début 90.
Ouais, ouais. Le bouquin commence par un tableau d'Orléans dans les années 80.
Ouais.
Puisque les premières amours musicales alternatives fortes du fondateur des Burning Gates, ça a été la Oi. Donc street punk, Oi. On voit la photo qui va ouvrir le bouquin, on le voit avec des spikes là, de punk extrêmement années 80. Il raconte comment il a intégré la Oi et puis aussi comment il en est parti quand il a eu du mal à la Oi. Il a eu du mal à sa Oi, voilà, c'est l'expression. Concrètement, quand c'est parti un petit peu dans le délire de savoir quand et comment on allait se mettre à sauver la race blanche. Quoi. Voilà. Évidemment, il a appuyé sur la touche Escape, ce membre fondateur à venir des Burning Gates. Les cartes musicales ont été redistribuées à Orléans, fin des années 80, et puis ce sont devenus en quelque sorte le premier groupe américain de France, dans le sens où beaucoup de Français qui les ont vus jouer au tout début des années 90 se sont dit, ces mecs-là, c'est pas possible, c'est des Californiens en tournée, ils sortaient du camion, ils montaient sur leur skate, ils jouaient en Bermuda, ils n'avaient pas de costume de scène, ils avaient leur t-shirt bariolé là, et puis le groupe a continué son rythme, sortie d'albums, tournée, différents projets, jusqu'à le concert que vous évoquiez tout à l'heure, là, les 30 ans de tournée, ils sont passés par Limoges, et puis ça continue, ils ont connu des vicissitudes qu'ils ont gérées au fur et à mesure, mais à l'heure actuelle, on peut parler des Burning Gates comme un groupe présent, alors moins hyperactif qu'ils ont été à une époque, mais à l'heure actuelle, ils ont géré leurs vicissitudes récentes et puis ils sont en train de composer des morceaux. Des nouveaux membres ou des membres anciens qui sont revenus amènent des riffs. Ils se projettent dans la sortie de nouveaux albums, de nouvelles tournées. Donc on a un groupe qui n'a pas arrêté.
Ah, c'est vrai, on a eu la chance également de les avoir en interview pendant cette fameuse soirée au Centre culturel municipal John Lennon. Et c'est compliqué d'interviewer un groupe pendant 15 minutes sur une carrière de 30 ans à travers tout ce qu'ils ont pu vivre, connaître, les gens qu'ils ont pu rencontrer et puis la situation qu'ils vivent à l'heure actuelle. Vous, de votre côté, ça a été quoi? Ça a été de longues soirées en entretien avec tout le monde? Ça a été, comment vous êtes organisé pour retrouver tous ces éléments que vous avez mis dans le livre?
Donc on les a déjà accompagnés il y a 3 ans sur cette tournée-là d'anniversaire, déjà juste pour voir ce qui se passait un peu à l'intérieur, tout simplement. On les connaît personnellement, moi j'ai joué dans des groupes qui les ont accompagnés sur scène, on les connaît depuis de nombreuses années, mais c'était déjà voir un peu ce qui se passait derrière le rideau, dans un van, dans les loges... Et puis voir ce qu'on allait faire. On avait un début de méthodologie, mais on s'est dit quand on va faire ça, on savait que ça allait être une histoire orale, c'est important, hein. C'est pas une biographie. C'est-à-dire c'est les activistes et les acteurs de cette scène-là, du groupe et des gens qui l'entourent, qui racontent l'histoire. Nous, on fait juste.
Là aussi, c'est, voilà. je n'ai pas encore vu le bouquin, mais c'est un modèle qui est très américain. Le fait, effectivement, de placer la situation et d'amener des témoignages, justement, les propos rapportés, comme
c'est ça.
C'est
ça, en puzzle.
L'histoire avance au fur et à mesure.
Ça rebondit en ping-pong.
Ouais, ouais. C'est ça, ouais, c'est un chassé-croisé d'informations. Alors, nous, on est intervenu parce qu'évidemment, on n'est pas naïf, il y a un travail d'édition. Il y a un travail d'étalonnage qui est fait.
Et de vérification des infos aussi, bien entendu.
Ça, c'est ouais. Je ne leur jette pas la pierre, parce que qui, dans sa propre vie, est capable de se souvenir ce qu'on a fait il y a 10 ans, 20 ans, 30 piges. Donc, sauf que quand c'est ton interlocuteur, c'est le mec du groupe, tu prends pour argent comptant ce qu'il te raconte. Tu ne t'imagines pas qu'il se trompe de ville ou qu'il se trompe de...
Même de titre de morceaux ou de musicien.
Parfois, il se trompe sur lui-même, sur la pochette d'un disque. Il dit « Ah, on a pris la photo... de tel autre membre du groupe, en fait non, c'était lui, mais il avait oublié, il se reconnaît même plus sur le détail de la photo de la pochette. Donc ça a pris du temps, ouais, d'aller débunker un peu tout ça, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous avez choisi de raconter? Comment vous l'avez hiérarchisé, ce livre? Est-ce qu'on suit la création des Burning jusqu'à aujourd'hui?
Il y a l'avant Burning, puisqu'ils ont tous une histoire avant Burning Gate. C'est le premier groupe, donc on voit d'où ils viennent. On parle d'Orléans, on parle de la situation du rock en France fin 70, tout début 80. Il y a le manager aussi historique de Burning, qui a son lot qui est une grosse personnalité, qui était déjà plus vieux qu'eux, donc il nous parle même des années 60, 70, 80. Donc en fait, c'est mettre ça dans une grosse marmite, quoi. Ce bouquin, c'est un bouquin sur les Burning Heads, mais c'est surtout un bouquin sur le rock indépendant, ou peu importe comment on l'appelle, rock, punk, en France. Voilà, c'est toute cette sous-culture-là. Et on a choisi de partir du début jusqu'à la fin, tout simplement, quoi. C'est parce que c'est le plus clair, le plus détaillé, le plus précis pour moi.
Tout à l'heure, tu nous demandais comment on avait procédé. Oui. Alors, je pense que tous les moyens autorisés par les technologies ont été sollicités. Skype, email, j'ai même écrit des lettres. Une seule.
Donc manuscrite.
Manuscrite, parce que c'était pour retrouver la trace de. Bon, je peux le dire, hein, c'est de Jack Endino, qui est connu parce qu'il a enregistré Bleach, l'album de Nirvana. Et Jack Endino, lui, n'est pas un féru de communication internet. Il a arrêté, il ne met plus ses emails en ligne parce qu'il recevait que des tonnes de mails, encore aujourd'hui, de fans de Nirvana qui voulaient. Alors, il était comment, Kurt Cobain? Donc il a
stop,
coupé. Il y a juste l'adresse de son studio, une adresse de rue. Bah, j'ai écrit, j'ai mis un timbre dans l'enveloppe, là, puis il m'a répondu. Alors j'avais mis mon adresse mail dans l'enveloppe, il m'a répondu par mail.
Ça, c'est fortement sympathique.
Et donc c'est marrant de prendre contact comme ça. Là, tu dis, je fais de l'investigation quand même.
Ouais,
là, bon, il a répondu, c'était cool. Et on a passé aussi énormément de temps avec les membres du groupe. Moi, je sais que j'ai besoin d'être un peu immergé là. Concrètement, on a fait des entretiens comme on est en train de les faire, mais avec le magnéto ouvert qu'on finit par oublier au bout d'un moment. Ouais. On a dormi à la maison. C'était un peu le j'irai dormir chez vous des Burning Heads. On a pris le petit déjeuner ensemble, et puis on arrivait à certains moments à des degrés de confiance. Tu vois que quand le mec te parle, tu as un peu des frissons, toi, et tu dis est-ce que ça va passer le cap de l'écrit? Donc j'espère que c'est le cas. Il y a certaines infos que les membres du groupe Burning Heads vont apprendre sur leur propre groupe ou sur les membres du groupe en lisant le livre, et je pense que ça va, ils vont se dire, ah tiens, on a failli d'arrêter d'exister à telle période, je ne savais pas.
Alors, c'est souvent le cas dans ce genre de format de livre où on met en avant les propos tenus par les acteurs et on ne cherche pas à réécrire l'histoire. Est-ce qu'il y a eu une relecture de la part des gens concernés? Est-ce que vous avez fait lire le livre?
Ils n'ont pas demandé. Ouais. Je leur ai demandé, mais ouais. Les mecs voulaient le relire. Alors il y a un gentleman's agreement, comme on dit. Nous, on n'est pas des fouilles merdes. Tu vois, notre but, c'est une biographie autorisée, on va dire. Oui. On est là pour, enfin, les, tu veux les histoires à la con, je sais pas, tu vois, des histoires de meufs, des histoires de.
Du changement de line-up où il y a tout le temps une petite acrimonie, ouais. Généralement.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Qui partent, il y en a qui se font dégager, il y en a qui se font remplacer. C'est toujours. Même avec le recul, Même avec le recul, c'est toujours. Ouais. Les égos ont toujours été un petit peu touchés. Donc, mais on a quand même parlé de tout ça. Mais voilà,
avec bon esprit.
Avec bon esprit. Ouais. Avec,
Oui, il y a le recul nécessaire maintenant pour pouvoir aborder ce genre
de questions. Alors, il y a un des membres du groupe qui fait une relecture, mais il fait une relecture purement factuelle. Parce que lui. Il nous dit non, ça, cette photo, c'était pas en Hollande, c'était en Allemagne, tu vois, ce genre de niveau de détail, quoi. On va pas se voiler la face, on sait que sur une première édition, avec autant d'informations à manipuler, il y aura des coquilles et puis il y aura quelques erreurs. Ah, c'est pas grave.
530 pages, ça fait vraiment. Il y a un nombre d'informations qui est vraiment vertigineux, quoi. Et surtout une iconographie, on n'en a pas parlé encore, c'est que dans ce genre de bouquin, il faut une iconographie adaptée aux propos, donc des vieux flyers, des vieux logos, des vieux stickers, des vieilles affiches. Là, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de... On peut vite se tromper.
Sur franchement, pour l'iconographie, on s'est fait chier. On est allé la chercher.
C'était ma
on
question,
est, on
justement.
On n'est pas du tout allé... Il y a quelques photos évidentes, celles qu'on pourra retrouver sur des albums, mais on a... quand on parle des albums et des photographies qui ont illustré les albums, on cherche la photo qui a été retenue de la même session ou la
les couves alternatives, des essais de couvre d'albums qui n'ont pas été retenus.
Et ça, comment on y accède?
Eh bien, écoute, ça s'est su qu'on faisait ce bouquin. Et certains possesseurs d'infos nous ont dit, écoute, voilà, je suis dispo tel week-end, faut venir à Orléans. Alors là, je prends la caisse. Là, moi, je suis pas de la région, hein, on fait 400 bornes, 500 bornes, on y va. Et puis, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans la boîte à chaussures. Et puis, parfois, on hallucine. J'ai retrouvé storyboard originel de leur premier clip qui est passé à la télé, des retranscriptions de paroles à la main.
Des fiches beaucoup... SACEM, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire vraiment s'inscrire à SACEM. Entre tous les intervenants, les personnes interviewées et les gens qui nous ont filé un coup de main, ça doit représenter pas loin de 150, 160 personnes. Ouais. Donc ça, on est vraiment tributaire de... on a mis 3 ans pour l'écrire, c'est aussi ça, c'est parce que déjà que nous deux, ça prend du temps des fois à s'ajuster, mais là il y a sur 160 personnes, quand on attend des photos de bonne qualité, qu'on reçoit des photos chopées sur Facebook, tu vois,
ça ne marche pas pour l'impression, ça, c'est pas possible.
Mais donc voilà, c'est ça, c'est beaucoup de personnes qui nous filent les coups de main, qui essaient de trouver des solutions aux problèmes qu'on met en avant. Mais c'est quand tu as terminé, c'est bien.
Je tiens à dire que quand Sam dit qu'on a mis 3 ans à l'écrire, évidemment, on n'est pas sur du temps de travail non-stop. Mmh. On a des propres vies. On a certains d'entre nous, notamment moi, qui ont des difficultés à maintenir le cap tout le temps. Et donc, c'est parfois, dans une journée, on n'a pu travailler qu'une demi-heure sur le livre. Mais bon. Il faut savoir aussi que le groupe a connu, je disais, des vicissitudes. C'est-à-dire, concrètement, leur chanteur historique s'est barré. Il y a eu quelques coups de théâtre comme ça. Et on ne pouvait pas sortir le livre au milieu du guet. On était obligé de connaître un peu l'épilogue. Donc, donc
ça ne figurait pas au sommaire qu'on s'était... C'était imaginé au départ.
C'était pas prévu,
C'est non, très voilà. Curieux même d'ailleurs d'être plongé au milieu de ce bain-là. On était pour le coup plus des journalistes que des historiens, entre guillemets.
Oui, Lucas, je t'en prie.
Oui, tout à fait, je me permets d'intervenir. J'écoute, je bois les paroles de nos invités depuis tout à l'heure, bien sûr. Mais en fait, c'est simplement moi, le format qui m'intéresse aussi. Vous dites 530 pages, quelque chose d'énorme. Vous êtes allé voir les gars du groupe, vous avez rencontré des gens qui ont été proches d'eux, vous avez récupéré des vestiges. Donc forcément, on va avoir une partie du livre qui va parler beaucoup aux fans du groupe, ceux qui peut-être même les ont connus, côtoyés de près, qui vont se rappeler des bons souvenirs. Et, sauf que pour avoir lu souvent beaucoup de bouquins moi, qui concernent le monde du punk... Il y a toujours des informations qui sont peut-être quand on n'est pas fan du groupe dorénavant, on va peut-être moins s'y intéresser. Comment on fait pour trier? Parce que j'ai l'impression que c'est vachement vaste. Le public que vous avez visé, en fait, ça pourrait intéresser tout le monde, puisque en tout cas tous ceux qui s'intéressent à la subculture, dont vous avez parlé tout à l'heure, le punk dans les années 90 en France, tout ça. Quel était l'objectif en fait de départ? Est-ce que parce que vous auriez très bien pu trier les infos en mode à s'adresser vraiment qu'aux fans et réduire le format, mais sauf que là on a quelque chose de très ouvert en fait.
Alors Alors très ouvert, non. Très précis, oui. Très détaillé. Alors clairement, ça c'est pour les gens qui connaissent, si ce n'est le groupe, la culture. Voilà. Bon, après, je connais personne. Je connais quand même pas mal de grands lecteurs ou de lecteurs. Je connais personne qui s'achète une bio d'un groupe qui ne connaît pas, honnêtement. Ça doit exister, mais là, sur un bouquin de 530 pages à 32 balles, c'est quelqu'un qui a eu une histoire avec au moins un album de Burning ou un concert ou quelque chose et qui se dit « Ah ok, d'accord », ou qui n'a pas écouté depuis longtemps, mais qui se rappelle que c'est ado, ça lui avait permis d'accéder à autre chose. Donc oui, c'est un bouquin pointu sur une niche musicale, sur un genre musical qui est pointu.
Alors, il y a aussi, il y a plusieurs degrés de lecture, et on n'a pas vraiment eu des bêta lecteurs, mais on a eu des correcteurs, des correctrices en l'espèce, qui connaissent un peu la musique, ont vu les Burning, mais qui ne sont pas fans, et qui nous ont fait un retour de l'ordre de ce qui les intéressait, c'était les rapports humains. Comment des choix qu'on fait à l'adolescence vont déterminer les individus qu'on va finir par devenir, en l'espèce pour les Burning, des ados de 50 piges. Et ça va au-delà de la musique. Et après, ils ont une vie qui, sans être extraordinaire, sort de l'ordinaire. Elle est romanesque à de nombreux égards. Et puis, on trouve des éléments, tu n'y crois pas, tu vois, ça va du... De Noir Désir qui les branche dès leur premier album pour partir en tournée. Ils se retrouvent à passer littéralement de fond de salle de petits bars à des festivals énormes en France.
La sortie du Tostaki où c'était le plus gros groupe en France.
À l'époque où Noir Désir était en tournée, des zéniths pour Tostaki. Ouais. Le patron de leur maison de disques qui fait faillite se pend dans les bureaux. À un moment, ça a donné lieu à un de la reggae les plus célèbres, mais les stupes se radinent dans la maison où ils sont en colocation. On voit tout le monde à garde à vue à une semaine d'une tournée européenne majeure. Enfin, il y a quand même des éléments qui font que la tension dramatique demeure, quoi. Il y a du cliffhanger.
Il y a de la narration, hein, justement, vu qu'il y a plusieurs, plusieurs acteurs. Il y a vraiment, c'est ça. À la fin, il y a un climax, et puis il y a des gens qui se font dégager du groupe ou qui quittent le groupe ou qui, c'est quand même une vraie histoire humaine, en fait. Hein, c'est
ça. Et on se marre aussi. Hein, je crois. Il y a des moments où alors que je connais l'histoire des Burning, j'étais aux interviews et en relisant là les épreuves avant d'envoyer à l'imprimeur, mais je ris tout seul. Alors je connais déjà la blague.
Vous m'avez niqué ma conclusion, parce que justement je voulais parler de tous ces éléments essentiels dans ce livre, ces histoires, ces rebondissements, quelque chose d'assez rocambolesque, après je ne l'ai pas lu, hein, mais je l'imagine et je me projette dans le sens où c'est peut-être un livre qui peut parler pas qu'aux fans en fait, des Burning Heads, à travers donc, cette longue histoire, ces 30 ans, cette histoire humaine, voilà, ces rebondissements. Je pense qu'on serait aux États-Unis, là encore, on pourrait l'adapter facilement en film ou en série, il y aurait des choses alternatives à faire.
Sur Netflix, quoi.
C'est sûr.
Ou sur une autre plateforme privée ou publique. Hein, voilà. Est-ce que justement les fans ont la parole dans ce livre ?
Ouais, alors c'est des fans qualifiés, on va dire. Ils font tous quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui ont vocation à dire « Ah, j'aime les Burning » qu'on ne peut pas passer 500 pages à rappeler qu'il y a un mec quelque part qui aime les Burning.
Non, mais sur un événement, sur une anecdote.
Ce que j'appelle des fans qualifiés, c'est des mecs qui, dans leur vie, ont au moins organisé des concerts. Fait des fanzines, fait des émissions de radio.
Sont devenus journalistes, acteurs.
Ont fondé leur groupe parce qu'ils ont vu Burning Heads. Voilà. Ça, il y en a beaucoup qui interviennent. Mais c'est vrai qu'on a eu, je ne sais pas combien de fois, on a eu une phrase du style « Les Burning Heads sont super sympas, ces mecs en or ». Donc je pense que le message est passé, et passe dans le livre. Et on s'est mis, je pense, par une sorte d'esprit pervers à chercher des mecs qui auraient un peu de mal à dire des Burning quand même pour équilibrer. On a eu du mal à en trouver.
Il y en a pas beaucoup.
Il y en a très peu. On a bu leurs paroles comme du miel. Enfin, quelqu'un de perfide.
En fait, on se rend compte que les Burning ont été supra-influents. C'est-à-dire que le programmateur du Hellfest ou des Eurocaennes, les plus gros festivals européens, te disent sans moufter que c'est un groupe qu'ils adorent, qu'ils respectent encore en tant que professionnels. Idem pour des journalistes, idem pour des producteurs, idem pour des mecs maintenant qui sont en studio, pour des très bons musiciens. Donc là on parle d'un groupe qui a influencé vraiment toute une génération de gens qui allaient participer à l'essor d'une culture alternative, quoi, tout simplement.
Il était donc temps et essentiel de retrouver donc cette histoire dans un livre qui s'appellera comment ?
Hey You, comme le titre qu'on a écouté tout à l'heure, titre de leur premier single pour la version punk rock, ouais. Et qu'ils ont repris en reggae ensuite, comme ils ont coutume de le faire.
Ah oui, souvent, le mélange des genres, en tous les cas, ça, nous sommes habitués avec les Burning Heads. La date de sortie officielle ?
Alors, c'est mois d'octobre. Ben, notre petit côté fanzine, c'est que je ne vais pas encore vous donner une date, ça c'est le côté fanzine, le côté un petit dérapage contrôlé. Et on sait aussi qu'on va prioriser un réseau de distribution underground pour s'adresser d'abord pour le coup aux fans. Et à Limoges, on sait qu'un infoshow comme Undersound sera à l'endroit le plus adapté pour se procurer à You.
Ouais. Ah, c'est ça, il y aura, oui Lucas.
Non mais je dis tout à fait, j'en doute pas, et surtout qu'il y a aussi pas mal de connexions de gens de Limoges, on a souvent entendu parler des Burning Heads. Hein.
Oui, pensons aux gens qui organisent les concerts Chaussettes, par exemple.
Oui, tout à fait.
Ouais. Oui, également. Oui.
Alors justement, il y aura plusieurs événements liés à la sortie de ce livre, entre autres donc avec votre venue du côté d'Undersound, mais ça, on aura l'occasion d'en parler en temps voulu. Des événements également ici même, à Poitiers, à la Fanzino.
Ah oui, c'est vrai que... Moi, quand j'ai commencé à bosser sur le livre Burning Heads, je ne travaillais pas à la Fanzinothèque, mais la Fanzinothèque, c'est le premier endroit où je suis venu pour aller chercher de la documentation. J'ai scanné 70 fanzines avec des interviews de Burning Heads. Et il se trouve qu'on va faire une expo à la Fanzinothèque qui va retracer la carrière de trois groupes, Caméra Silence, Les Thugs et Burning Heads, donc trois groupes comme ça symboliques de l'histoire du punk français. Et chacun de ces groupes voit un livre paraître qui documente leur histoire. Caméra Silence, c'est sorti au Castor Astral par Patrick Scarzello. Les Thugs va sortir aux éditions Le Boulon, auteur Patrick Tadfouloux, ancien fanzineux de Clermont-Ferrand.
Oh oui.
Et le livre Burning Heads qu'on vient d'évoquer. Donc on va se retrouver, tous autant que nous sommes, rajouter Franck Frejnik que j'ai cité, qui faisait le fanzine Violence et qui travaille avec nous sur ce projet. Et puis, on va mettre en place une exposition qui va représenter l'univers visuel de ces groupes. Flyers, affiches, autocollants qu'on mettait sur le frigo, etc. Les Burning Heads seront là. Tout le monde touche du bois, clonk clonk, pour que les concerts debout aient lieu. Concert prévu au mois de février, le samedi 27 février, au Confort Moderne, ici même où nous sommes. Vernissage de l'expo, table ronde avec nous. Style les fanzines deviennent-ils des livres, etc. Et puis pour ou contre les prosines, comment retranscrire l'accent franc-comtois dans un entretien écrit, voilà. toutes ces problématiques.
Ah oui, grande question.
Tout ce que les gens veulent savoir en quelque sorte. Quoi.
Alors quel éditeur assez fou
Esprit Fanzine aussi, on est dans l'autoproduction. Moi j'ai un label qui s'appelle Metro Beach. Ouais. Actuellement, Sam est en suspension de label, il aurait eu Lucien encore actif, ça aurait été une coprod. Appelons ça de l'autoproduction en bonne intelligence avec le groupe qui sera un de nos vecteurs de diffusion. Et au fil des années, comme on ne s'est pas encore embrouillé avec tout le monde, on a encore un réseau d'amis et de mecs solides pour nous distribuer.
C'est ça. Donc on connaît, on fait partie de cette scène depuis 25 ans, on connaît tous les acteurs. Donc même, je pense, le faire publier par quelqu'un d'autre aurait été une erreur stratégique. Donc, et le plaisir aussi, quand tu as terminé ce bouquin, c'est de l'amener directement sur le terrain et de se retrouver en condition quasiment concert avec une table de merch, à serrer quelques paluches et puis à glisser quelques mots sur la première page, quoi, tout simplement.
Je sens que Sam a du mal à déléguer, qu'il aime bien faire les choses du début jusqu'à la fin, et tu as bien raison.
50% des choses.
50% des choses, effectivement. Merci à tous les deux de nous avoir parlé de ce livre, des Burning Heads. Quant à nous, nous allons... Et puis de l'exposition également, qui s'appelle L'Enfer, qui sera visible d'ici le 11 septembre dans ce petit coin au sein de la Fanzinothèque. Dernière pause musicale, et puis après je fonce en mode envoyé spécial pour non pas rejoindre les Lysistrata, puisque malheureusement ils n'auront pas le temps de se poser avec nous, puisqu'ils sont en résidence ici même au Confort Moderne, mais j'irai jeter une oreille avec mon téléphone, et vous aurez donc la possibilité d'être immergé avec moi et avec Lucas, donc eh bien, auprès de cette résidence de Lysistrata.
Exactement. Bon, on va terminer avec un morceau de Burning Heads aussi.
Ah ben si tu veux.
Plaisir.
Alors, quelle version de des Burning tu as pris ?
Non, moi j'étais retombé il y a pas trop longtemps sur l'album Choose Your Rap et le titre Voice of the Voiceless, pardon. Bien sûr, bel accent aussi.
Oui.
Et parce que j'aime beaucoup ce titre.